Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Comme Elle. Je suis Émilie, je suis votre hôte et la fondatrice de l'agence événementielle La Parenthèse Magique. Au fil des épisodes, je vous emmène à la rencontre de femmes au profil très différent mais qui ont tout un point commun, c'est d'être inspirantes de par leur métier, leur passion, leur vision de la vie, leurs objectifs, leurs ambitions. Des femmes connues ou moins connues, mais auxquelles on pourra toutes s'identifier et se dire bon, « si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?» Ces conversations avec mes invités sont là comme de véritables boosts d'énergie positive, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, vous dire qu'en y croyant très fort et en s'en donnant les moyens, eh bien finalement tout est possible. Et puis, que surtout, surtout, comme elles, vous osiez. Alors, sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à mon micro Estelle Denis. Estelle, c'est une jeune tourangelle qui exerce une activité bien particulière puisqu'elle est créatrice de contenu culinaire sur Instagram. Vous allez me dire, mais oulala, qu'est-ce que c'est ? Eh bien justement, pendant cet épisode, Estelle va nous parler de son parcours, de ce moment où, un petit peu comme nous tous finalement, en plein Covid, en plein confinement, elle s'est mise à cuisiner puisqu'elle n'avait elle aussi que ça à faire. Sauf que chez elle, ça a déclenché une véritable passion qu'elle a développée. Elle a lancé un compte Instagram pour partager cette passion qui a grandi pour aujourd'hui être suivie par plus de 10 000 personnes. Alors pour ceux qui sont familiers avec ce terme de créateur de contenu culinaire qui est aujourd'hui un métier, c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur les coulisses. Et puis pour les autres, ça va vous permettre d'en savoir davantage sur ce nouveau métier, ce qu'elle fait, les missions, comment elle occupe ses journées, bref, vous saurez tout. Et puis, à mon avis, cet épisode va quand même vous donner l'eau à la bouche parce qu'Estelle va nous parler de certains de ses plats. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Estelle.
Bonjour Émilie.
Écoute, merci d'avoir accepté d'être dans cet épisode du podcast. Je suis ravie de t'avoir avec moi pour nous parler de ton parcours. On va parler de beaucoup de choses qui sont, je pense, très intéressantes. J'aimerais que dans un premier temps, tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et si tu veux bien, quel âge tu as.
D'accord. Bah tout d'abord, merci à toi de m'accueillir. Alors moi, c'est Estelle. J'ai 26 ans, bientôt 27. Et du coup, je suis créatrice de contenu et photographe culinaire sur Instagram.
D'accord. Et tu es basée où ?
Sur Tours.
Ok, d'accord. Et tu nous as dit quel âge tu avais ?
26
oui.
ans.
26 ans. Ok, bientôt 27.
Demain 27.
Tu verras qu'après, tu ne dis plus ça. Tu fais l'inverse. Alors du coup, concernant ton parcours, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus. Tu as fait des études dans quel domaine ? Enfin déjà, est-ce que tu as fait des études ? Dans quel domaine ? Dans quelle ville ? Raconte-nous un petit peu.
D'accord. Donc tout d'abord, j'ai eu le bac scientifique.
D'accord.
Ensuite, je suis partie à Montaigu, du côté de Nantes, faire un BTS audiovisuel, option gestion de la production.
Ok.
Donc tout ce qui était cinéma, télévision.
Mmh.
Ensuite, je me suis orientée plus vers le spectacle. Donc j'ai fait une licence professionnelle administratif et gestion des entreprises culturelles à Chambéry.
D'accord.
Et ensuite, je suis partie aux États-Unis pendant un an faire jeune fille au pair.
Ok. Et donc tu savais ce que tu avais envie de faire plus tard ? Tu t'es dirigée vers ces études-là parce que tu avais une idée bien précise en tête ou pas forcément ?
Oui. Alors tout ce qui m'intéressait, c'était les comédies musicales.
D'accord.
Donc tout ce qui était les productions. Donc je me suis dit, je vais m'orienter vers des études, vers le spectacle en fait. Mais c'est vrai que c'est très compliqué ce domaine-là. T'as pas d'études particulières non plus dans les comédies musicales, mis à part si tu veux être artiste, ce qui n'était pas mon cas.
Oui.
Donc voilà, je me suis dirigée vers l'audiovisuel puis le spectacle.
D'accord. Donc un an jeune fille au pair aux États-Unis. Parle-nous d'un peu de cette expérience. Moi, j'aurais rêvé partir un an comme ça aux États-Unis. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est toi qui as eu cette volonté-là ? Et du coup, tu as fait les démarches, la famille d'accueil, c'était bien. Qu'est-ce que tu faisais là-bas concrètement ? Enfin, raconte-nous, je suis curieuse.
C'était une super année.
D'accord.
Vraiment une très, très belle aventure que je recommande à beaucoup de personnes d'ailleurs. Alors en fait, j'ai fini ma licence pro. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ensuite ? J'avais envie de partir aux États-Unis, j'adore les États-Unis, j'y étais allée déjà plusieurs fois.
Oui.
Et j'avais très envie d'étudier là-bas, sauf que les études là-bas, c'est hors de prix.
D'accord.
Du coup, j'ai cherché par tous les moyens d'y aller et je suis tombée sur l'aventure de jeune fille au pair, par hasard sur Internet.
Mm-hmm.
Il existe différentes agences en France, la plupart sont basées sur Paris. Du
D'accord.
coup, j'en ai contacté une.
Oui, tu es passé par une agence, en fait.
Tu es obligé de passer par une agence. Tu ne peux pas y aller par tes propres moyens. C'est illégal, sinon, en fait.
D'accord, il faut
un visa particulier pour pouvoir y aller.
Okay.
C'est un visa étudiant. Donc voilà, j'ai été sur Paris, rencontrer cette agence qui t'explique le fonctionnement et tu passes un petit entretien de quelques minutes en français et en anglais.
D'accord.
Il faut quelques bases en anglais, mais vraiment le strict minimum
oui.
pour pouvoir partir. Si tu parles pas un mot, c'est un peu compliqué.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, pour être jeune fille au pair, il faut avoir 18 ans, avoir le bac et le permis.
D'accord.
Et ensuite, ils te demandent de remplir tout un dossier. Donc moi, je l'ai rempli pendant 3 mois, donc de septembre à... novembre.
Ouais.
et voilà, tu parles de toi, tu dis ce que tu fais, ton expérience avec les enfants. Il faut que tu aies 200 heures minimum d'expérience avec les enfants, babysitting, soutien
D'accord.
scolaire, un petit
okay.
peu tout ça. Et après, ton dossier est mis en ligne sur une plateforme où les différentes familles d'accueil des États-Unis voient ton profil et matchent avec toi.
Ah d'accord, je pensais pas du tout que ça se passait comme ça. Je pensais qu'on t'attribuait une famille voilà, comme
ah, non,
ça.
Non, non, pas du tout.
Ah,
non,
okay.
non, c'est vraiment un match où les familles te contactent. Si tu es intéressée par leur profil, parce qu'elles aussi ont un dossier avec tout ce qui concerne leur famille, le nombre d'enfants, l'âge, ce qu'ils font dans la
ah
vie,
oui,
ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, où est-ce qu'ils habitent.
Okay.
Et si leur profil t'intéresse, tu matches avec eux également et tu as leur mail et tu peux commencer à échanger avec eux par mail, par Skype.
D'accord.
Voilà, tu échanges okay, avec bien. Eux. Tu vois si ça te plaît ou non. Si tu vois que ça passe pas, qu'il n'y a pas de feeling, bon, bah, on s'arrête là. Mais si ça se passe bien, il y a plusieurs contacts. Moi, ma famille, je pense que c'était peut-être la cinquième.
Ouais.
Donc voilà, on a eu plusieurs échanges en visio. J'ai rencontré les enfants en visio également. Donc voilà, ça m'a plu. Donc j'ai matché avec eux. Eux m'ont demandé, est-ce que tu veux être notre père ? Donc
D'accord.
j'ai dit oui. Et ça s'est fait assez rapidement au final, je pense au bout de 2 semaines.
D'accord. Ah ouais, je pensais pas vraiment qu'il y avait cette idée de match, en fait, comme une appli de rencontre, mais pour jeune fille au père, en fait. Non, non, mais
ça.
C'est intéressant parce que du coup, tu choisis ta famille, mais en même temps, eux te choisissent aussi, donc
oui.
tu as plus de chances que sur place, ça marche
oui,
bien.
Oui, oui, exactement. Et après, ce qu'on recommande et ce que les agences nous disent, c'est de ne pas choisir un endroit, mais la famille. Parce que si on se dit, allez, je vais aller à New York ou à Los Angeles, on peut tomber dans une famille qui ne nous plaira pas du tout.
Ouais.
Alors que si on choisit vraiment une famille qui nous plaît, on vivra une meilleure aventure.
Oui, puis c'est pendant 1 an, je crois,
oui.
tu nous as dit. Donc bon, il vaut mieux quand même être à l'aise dans sa famille. Okay.
Exactement. Et après, on peut voyager pendant 1 an.
Oui, et c'est ce que j'allais te dire. Alors du coup, jeune fille au père, ça veut dire qu'effectivement, sur place, t'es là pour t'occuper des enfants,
tout
si je
fait.
Dis pas de bêtises.
C'est ça.
Mais du coup, après, le reste du temps, est-ce que t'es 24-24 avec les enfants ? Enfin, comment ça se passe rapidement, hein, pour nous préciser ?
Alors, pas du tout. Alors moi, il faut savoir que j'avais des enfants de 5, 7 et 9 ans, donc qui allaient à l'école. Je voulais pas avoir
ouais.
des bébés. Alors,
ah, pas bête
des...
d'avoir le temps pendant qu'ils sont à l'école.
C'est
pour
exactement ça. Certaines ont des bébés, donc travaillent 40 heures par semaine,
ah
voire
ouais.
45 heures.
C'est pas la
et,
même chose. Là.
C'est pas du tout pareil.
Ouais.
Moi, je travaillais une trentaine d'heures, je dirais, des fois moins. Et donc, je m'occupais d'eux de 7h à 8h30 le matin. Donc,
okay.
petit-déj, les aider à se préparer, les dents, etc. Le bus passait juste devant la maison, le car scolaire.
D'accord.
Donc, j'avais même pas à les emmener à l'école.
Ça avait bien calculé ton
le
coup, quand même.
Le bus jaune bien américain.
C'est
qui
vrai.
Arrive.
Ah, j'adore
le cliché. Et du coup, ouais, ils partent à l'école. Et moi, je suis libre de 8h30 jusqu'à 15h. Quand ils rentrent de l'école, donc pareil, le bus vient devant la maison,
oui.
Et de 15h à 18h à peu près, je m'occupais d'eux pour les devoirs, les activités extrascolaires, des fois faire le repas, mais c'était rare, parce que moi j'avais mon host dad qui travaillait en fait, qui était tout le temps à la maison.
Ah d'accord.
Il était pompier, et du coup il travaillait une journée, 3 jours off, une journée.
Ah oui, ok.
Donc
d'accord.
il était souvent là, donc il gérait pas mal les repas. Et donc voilà, moi c'était de courtes journées et pendant mon temps libre, je pouvais aller à la salle de sport,
c'est
aller
chouette
à
de
l'école.
Combiner les deux.
Ah oui.
Ouais.
Ouais,
bon.
Ouais.
Bah, très belle expérience. Je ne pourrais pas être jeune fille au père. Maintenant, c'est trop tard, mais très belle expérience si on a des jeunes qui nous écoutent.
Ouais.
Donc du coup, après cette année de jeune fille au père aux États-Unis, qu'est-ce que tu as fait ? Tu rentres en France et comment ça
France.
Se passe ?
C'est très compliqué le retour pour moi.
Ah, bah alors, raconte-nous ou pas, je
alors,
sais pas, comme tu veux.
J'ai pas eu le mal du pays en arrivant aux États-Unis, je l'ai eu en rentrant en France.
Ah d'accord, et eh ben écoute.
J'étais avec une amie que j'avais rencontrée justement, une française, qui était partie en même temps que moi, 1 an plus tôt, donc on a fait pas mal de voyages ensemble là-bas. On
ouais.
est rentrées toutes les deux le même jour.
D'accord.
Et on s'est regardées, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? On était à l'aéroport de Paris.
Ah mince.
Et complètement perdue. Et du coup, pendant 3-4 mois, ça a été un peu compliqué et je cherchais par tous les moyens de retourner aux États-Unis.
Ah ouais, et pourtant, moi, je me serais dit, bon, bah, ok, 1 an, tu vis une expérience de fou, mais t'as quand même ta famille qui reste
Exactement,
en France.
Exactement, ouais.
Mais non, il y avait quand même.
Ah, ce truc.
Tu aimes toujours ta famille, hein,
oui, oui.
y a pas de souci. Mais je veux dire, t'avais pas ce soulagement de se dire, allez, je les retrouve. Non, t'avais quand même dans un coin de ta tête l'idée
repartir,
d'envie de repartir.
Ouais. Exactement. Je regardais pour passer le TOEFL, pour faire des études. J'avais trouvé
ah oui,
encore un master dans les comédies musicales à Columbia.
Ouais, bah, puis là-bas.
Impossible. 50 000 dollars l'année.
Ah, oui, d'accord.
Ça te fait redescendre direct.
Okay.
Okay.
Donc voilà, pendant 3-4 mois, ça a été un peu compliqué. J'ai pas mal voyagé avec ma sœur jumelle. Ça m'a beaucoup aidée aussi.
Ouais.
Vraiment me vider la tête et penser à autre chose. Donc ça, c'était cool. Bon, après, j'ai rencontré mon copain, donc ça a changé aussi la donne. Et je me suis mise à travailler un petit peu dans l'entreprise de mon père en attendant. Je cherchais du coup du travail. Donc j'ai trouvé un travail à Paris, dans les théâtres du point-virgule, grand point-virgule, Centre Idéal.
Ouais, super.
Donc c'était tout ce qui était administratif, gestion du personnel, tout ce qui va être le rapport entre la production, les artistes, les théâtres.
C'est ce que tu avais appris pendant tes études ?
Exactement. D'accord. C'était okay. Exactement ce que je faisais pendant ma licence professionnelle. Super. Donc c'était en concordance.
Ok.
Donc voilà, pendant un an, j'ai travaillé à Paris. Ensuite, j'ai trouvé un poste à Saint-Pierre-des-Corps, juste à côté de chez moi, du coup, à Tours.
Oui.
Et j'ai voulu revenir par ici, parce que c'est vrai que la vie parisienne, c'est assez compliqué, tout ce qui est métro, boulot, dodo.
Ça te plaisait pas forcément,
non,
ouais.
Pas forcément. C'est vrai que la vie culturelle là-bas est géniale.
Bah, pour le coup, faire. Dans ton domaine, oui.
Mais c'est vrai que ça va à 100 à l'heure, t'as pas le temps pour toi. Enfin, j'étais pas faite pour ça, d'accord. Clairement. Donc j'ai même décidé de revenir à Tours avant la fin de mon
CDI,
d'ailleurs.
Ah oui, c'est dire.
Ouais. Et du coup, je faisais les allers-retours tous les jours. Je prenais le train.
D'accord.
Une heure, Tours-Paris.
Ouais, okay.
Et j'étais à Montparnasse, en fait. Donc j'avais
bon,
pas d'autres métros
allait,
à
alors.
Prendre.
Ouais.
Ah oui, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Et du coup, j'ai trouvé un CDD à Saint-Pierre-des-Corps avec la compagnie OFF.
D'accord.
Donc, compagnie de spectacle de rue. Donc, pareil, administratif.
Le même job
le
que
même,
tu faisais à Paris,
exactement.
Mais ici,
voilà.
Plus près, du coup, à Saint-Pierre-des-Corps.
Malheureusement, j'ai commencé une semaine avant le premier confinement.
Bon, voilà.
Donc, en mars 2020. Donc, j'ai été mise en activité partielle pendant toute la durée de mon CDD de 6 mois.
Ouais, super,
et
mince.
J'ai même pas pu voir de spectacle de la compagnie, au final.
Ouais, c'était vraiment pas le bon timing.
Ah, hein,
pour personne, hein, mais d'autant plus, là, dans ce premier job ici à Tours.
Ouais, donc okay. J'ai pas vu grand-chose.
D'accord, et donc c'était un CDD de 6 mois.
Exactement, qui devait être prolongé en CDI peut-être.
D'accord, et du coup, à la fin du CDD de 6 mois, ils t'ont dit que malheureusement, ils
pouvaient
pas
me garder parce que les spectacles reprenaient pas du tout et qu'il y avait rien.
D'accord. Alors du coup, comment tu as pris la nouvelle et qu'est-ce que tu as fait ensuite ou quelles étaient tes options en fait malgré le fait qu'on soit en confinement, bon entre guillemets, la terre ne devait pas s'arrêter de tourner, il fallait bien aller travailler.
Exactement.
Ou faire une activité quoi.
Alors en fait, j'ai lancé mon compte Instagram Frenchy and Foodie,
oui.
Mais totalement par hasard à la fin du mois de mars du coup, pendant le premier confinement.
D'accord.
Donc je me doutais pas du tout que le Covid allait nous bloquer autant de temps en fait avec plusieurs confinements.
Oui, c'est ça.
Donc totalement par hasard, je lance ce compte sans me dire allez, je vais poster tous les jours mes repas.
Ouais, alors du coup, c'était un compte, effectivement, on va parler de ça aussi dans l'épisode, un compte culinaire. Donc tu t'es dit, je pense comme beaucoup de gens, on s'occupait comme on pouvait en fait, parce qu'on pouvait pas sortir
c'est
de
ça.
Chez nous. Donc toi, tu décides de lancer un compte Instagram. Pourquoi est culinaire et pas sur le do-it-yourself par exemple, plus loisirs créatifs? Parce que je crois aussi que t'aimes bien les loisirs créatifs.
Oui, j'adore ça.
Et c'est vrai que pendant cette période, on a beaucoup cuisiné, puis on a beaucoup fait de choses de nos mains. Donc pourquoi aller vers la cuisine? Est-ce que c'était une passion que t'avais déjà de base?
Bonne question. Je pourrais même pas t'y répondre. Alors, pas du tout. Il faut savoir que moi, je ne cuisinais pas du tout, voire très peu. Enfin,
d'accord.
J'ai commencé à faire mes premières pâtes à 18 ans.
Okay.
Je cuisinais vraiment pas beaucoup. Et quand j'ai été étudiante, il a fallu cuisiner un petit peu, mais c'était des choses très simples et basiques.
Oui.
Je pense que personne n'aurait misé sur moi pour faire un compte
d'accord,
culinaire.
C'est
même
fou,
moi,
ça.
Il y a quelques années, je regardais Insta et je me disais, mais comment on peut créer un compte food en fait?
Ouais. Alors, du coup, pendant le confinement, peut-être que tu as été comme tout le monde, tu t'es mis à cuisiner parce que tu avais entre guillemets que ça à faire. Mais tu saurais pas nous dire à partir de quand tu t'es dit, je vais en fait le partager, tu vois, sur les réseaux sociaux à plein de gens, quoi.
Ouais, je me souviens pas exactement.
Parce que moi, je suis pas fan de cuisine, je cuisine un peu. Mais c'est pas forcément très beau, quoi. Et donc, du coup, comme c'est très visuel, les réseaux sociaux, je vais pas me dire... Ou alors, il faut que je sélectionne les repas que je poste, parce que sinon, ça va pas du tout donner envie aux gens. Donc, tu vois, à quel moment tu t'es dit, quand même, j'ai envie de partager mes repas.
Alors, sache que mes premières photos sont très loin d'être
d'accord.
Comme celles d'aujourd'hui.
Donc, si on retourne, tu nous as donné ton compte, on en reparlera après. Frenchy and Foodie, si on remonte dans le feed...
Ah, c'est juste l'assiette en photo, il n'y a aucune, aucun stylisme culinaire autour, il n'y a rien du tout.
Belle évolution, on en parlera du coup après tout à l'heure.
Mais ça ne donnait pas forcément envie ni rien,
ouais.
C'était vraiment très basique, je postais juste une photo avec mon assiette.
Ok, et du coup, tu avais un compte Instagram perso et tu en as ouvert un autre pour partager ce que tu mangeais, ce que tu cuisinais, ou c'était le même au départ?
Non, c'en est un nouveau.
Ah ouais, vraiment, tu t'es dit dit, je fais un compte Insta pour ça quand même.
C'est ça, parce que mon perso, c'est les voyages, donc rien à voir.
D'accord, ok.
Donc voilà, ouais, j'ai créé ce compte et je pense qu'on est beaucoup à s'être mis à cuisiner. Et à force de cuisiner, bah, j'ai trouvé énormément de plaisir là-dedans. Et du coup, j'ai continué et je me suis dit, oh, j'aime bien cuisiner, tiens. Et si je prenais en photo mes plats, comme beaucoup de monde se mettait à cuisiner à ce moment-là, ouais. Je m'en suis rendu compte sur Insta.
Oui, c'est vrai.
Et c'est là que du coup, je me suis dit, allez, je poste. Et tu tombes sur des comptes sur Insta Food qui mettent en valeur justement leurs plats. Et ouais. C'est là que j'ai commencé à prendre plaisir, à faire mes photos et à mettre en scène en fait mes plats.
D'accord.
Et à créer des
petits univers. C'est fou ça. Comme c'est une passion un peu qui est née en fait. Grâce entre guillemets au fait que tu sois confinée et que tu n'aies que ça à faire. C'est
exactement.
Fou.
J'aurais jamais créé un compte Food si on n'avait pas été confinée.
Ouais, bien
pense,
sûr. Bon bah c'est fou. Donc aujourd'hui, on peut te suivre sur Instagram sur Frenchy and Foodie. On rappellera tout à l'heure tes comptes et tes pour te retrouver. T'es suivie par 10 300 personnes. Alors j'imagine, j'espère. Sinon c'est dégoûtant pour les autres qui se lancent que t'as pas eu 10 300 personnes dès le départ. Au début, qui te suivait et comment est-ce qu'il y a eu des paliers en fait? Parce que pour passer de 0 à 10 300, ça s'est pas fait en,
ah oui,
en
non,
une semaine.
Ah oui, exactement. Non, pas du tout. Alors, moi, les premières personnes qui me suivaient, c'est ma famille et mes amis.
Ouais,
tout simplement.
Bah oui.
Donc,
ouais.
Ça se comptait peut-être 100, quoi. D'accord. Max. Au fur et à mesure des semaines, c'est vrai que ça a pris de l'ampleur. C'est l'effet confinement, tout simplement, l'effet boule de neige qui a pris. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là parce que la plupart de mes copines d'aujourd'hui sur Instagram ont le même nombre d'abonnés, un peu plus, un petit peu moins. Mais je pense que toutes celles qui ont débuté pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a eu un effet.
C'était le bon moment,
ah,
quoi.
Oui, c'était le moment pour se lancer. Et jamais je me serais dit, bon, bah tiens, dans 2 ans, tu seras à 10 000 abonnés. Pas du
d'accord.
tout.
D'accord.
Ouais. Et la première année, je prenais. J'ai vérifié en août, j'avais déjà 2 000 abonnés. Donc tu vois,
d'accord.
J'avais pris pas loin
donc,
de 1 000 abonnés.
Tu nous
par
disais
mois.
Que ça avait été lancé en mars 2019.
Fin mars 2020.
Ok. Donc fin mars 2020. Et du coup, en 20 mars, avril, mai, juin, juillet, août, ouais, 5-6 mois,
ouais.
T'as été déjà à 2000 abonnés.
Ouais.
Ok.
Et après, ça a été encore plus vite. Une fois que t'as des abonnés, bah, ça, t'as plus de visibilité.
Bien sûr,
donc
ouais.
Ça augmente de plus en plus. Après Instagram, tu peux pas trop l'expliquer. Ça va, ça vient.
Oui, c'est vrai. On va pas parler ici d'algorithmes qui changent
ouais,
tout le temps.
Non,
bon, c'est un peu complexe. Et
ouais.
Ouais. Mais en tout cas, effectivement, t'es monté assez rapidement en nombre d'abonnés.
Ouais.
Et des abonnés, j'ai envie de dire, qui sont entre guillemets qualifiés parce qu'ils likent beaucoup tes photos, ils commentent, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais. Ça, pendant bien 2 ans. Là, c'est vrai que depuis quelques mois, Insta a un peu fait ralentir tout le monde, j'ai l'impression.
D'accord, ouais.
Donc, beaucoup moins de visibilité. Mais au début, j'avais peur que ce soit que moi. Mais en fait, non, tout le monde, j'ai remarqué. Donc, ça, on ne peut pas trop l'expliquer, en fait.
D'accord.
T'as des photos qui vont très 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 bien marcher et d'autres ça va être un énorme flop.
Ouais,
mais
c'est ça,
tu peux pas savoir.
Ouais, c'est pas facile de prévoir.
Non.
Ok. Donc du coup on va parler un petit peu plus de création de contenu parce que clairement c'est ça ton activité principale entre guillemets via ce compte Instagram. Donc la création de contenu ça peut être dans plein de domaines. Toi t'as choisi la food, la nourriture, le culinaire. Comment ça se passe est-ce que tu décides de poster tes plats? Et c'est préparé. Est-ce que tout ce que tu postes, c'est de ton propre chef ou est-ce que tu as des collaborations et des marques te contactent? Enfin, raconte-nous un petit peu, si on va sur ton compte, ton feed, voilà, à quoi ça correspond.
Alors, tu as pas mal de recettes sur mon compte, que ce soit sucrées, salées, des recettes que j'ai faites pour moi,
ouais,
pour ma famille,
okay.
Pour mes proches. Et d'autres recettes qui sont en effet des créations de contenu pour des marques.
D'accord.
Donc, il faut savoir que certaines marques me contactent.
Oui.
Via Instagram ou via mon mail qui est dans ma bio.
Oui.
Et du coup, elles me demandent de créer une recette avec l'un de leurs produits afin
d'accord.
De le mettre en valeur.
Ok.
Donc, comment ça se passe? Donc, la marque me contacte. Ensuite, on discute de la recette. Donc, il faut savoir que certaines me demandent une recette, d'autres plusieurs.
Oui, ça dépend vraiment du projet.
Recette. Oui, oui,
d'accord.
Exactement. Me parlent de leurs envies, de leurs attentes et des produits à mettre en avant.
Oui.
Ensuite, on discute des tarifs. Donc, on se met d'accord, il y a une petite négociation.
Oui.
Il faut savoir que certaines marques ne proposent pas de rémunération.
C'est ce que j'allais dire sans rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, maintenant, Instagram, ça fait un petit moment que ça fait le buzz et que c'est un réseau social que beaucoup de gens utilisent. Au tout début, mais que ce soit dans la food, dans la mode, dans la beauté, peu importe le secteur sur lequel on est, bien souvent, ce n'était pas rémunéré. Ça a évolué. Les marques et les agences ont compris que finalement, c'était des vrais créateurs de contenu derrière ces comptes, que ça demandait du temps et puis que c'était devenu un métier, en fait.
Oui.
Si on ne prend pas le terme d'influenceur, mais de créateur de contenu culinaire, là, pour toi, pour ton cas. Et du coup, de plus en plus de marques. Et aujourd'hui, alors moi, je ne suis pas vraiment dedans, mais je pense que là, beaucoup se rendent compte qu'effectivement, c'est de la valeur ajoutée et qu'il faut que ce soit rémunéré au même titre que toute autre personne, soit dans l'entreprise ou soit qui font appel à un prestataire classique, parce que tu vas partager à ta communauté et que tu leur apportes de la valeur et que derrière, ils vont servir leurs objectifs. Donc, c'est important de rappeler qu'il y a cette rémunération derrière une collaboration et que je ne sais pas toi comment tu les sélectionnes, mais que quand on te dit qu'on va t'envoyer un bon d'achat, bon, bah, clairement, tu ne payes pas ton loyer en bon d'achat. Non, mais c'est moi, je suis très cash, mais c'est important en fait de
c'est
le dire.
C'est exactement ça. Certains me disent, on va vous envoyer un produit de plus.
Oui, merci.
Je leur dis oui, mais non, en fait, parce que moi, je ne peux pas payer mes factures avec un produit de plus.
Ouais.
Et c'est vrai que la rémunération est importante dans le sens où c'est devenu un moyen de communication pour eux.
Ouais.
Donc, on leur fait de la communication.
Bien
c'est
sûr.
Un moyen comme un autre, comme ils pourraient le poster, faire un message à la télé ou dans la rue ou dans les magazines.
Ouais.
C'est vraiment un moyen de communication, une publicité. Donc, c'est important de rémunérer aussi les créateurs du contenu qui prennent le temps, eux, de réaliser justement, pour moi, une recette.
Ouais.
Donc, ce n'est pas en une seconde, en claquant des
Bien
doigts,
sûr.
Que je vais faire leur recette.
Oui, on en parlera en détail tout à l'heure, mais
ouais,
c'est vrai.
Travail,
et puis, c'est du travail qu'ils ne vont pas faire. Et il faut appel à un créateur de contenu pour la qualité de ses plats, de ses photos aussi. On y reviendra.
Oui.
Parce que si on va sur ton compte, les photos, elles donnent envie, elles sont jolies, mais tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, c'est important. Donc, continue à tes petites étapes, qu'on en sache un peu plus à partir du moment où donc, tu négocies un peu cette rémunération par
Exactement.
Rapport au travail qu'on va te confier. Et je précise, mais tu pourras le redire bien mieux que moi, c'est pas parce que tu es rémunéré pour ces collaborations que tu ne fais pas ça avec plaisir et que ça reste ta passion, en fait.
Tout à fait.
Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais c'est important de le
Tout
dire.
Tout à fait. C'est vrai que c'est un job hyper plaisant dans lequel je m'épanouis beaucoup. Ça change du travail dans les théâtres parisiens,
ouais, ouais.
où j'étais dans un bureau toute seule derrière un ordi H24 qui ne me plaisait pas forcément. Là, c'est vraiment un travail pas commun, comme tu dis,
ouais.
original et qui... Pour moi, réaliser une recette, c'est pas une corvée. Loin
ouais.
de là, c'est vraiment un plaisir. Et savoir que je réalise cette recette et que je la prends en photo pour donner envie et qu'à travers... Une photo, ça donne envie. Je me dis, c'est bon, Paris réussi.
Ouais. Et c'est bien de préciser que tu allies passion, travail, mais en toute honnêteté, transparence, franchise,
ah oui,
tout
exactement.
Ça. Voilà.
Exactement. Et c'est vrai que si on me propose un produit qui ne m'intéresse pas du tout, je refuserai. Il y en
voilà.
a pas mal que je refuse.
C'est à ça qu'on reconnaît un bon créateur de contenu, je pense. Enfin,
ouais.
C'est mon avis. Mais...
J'ai des propositions qui ne m'intéressent pas du tout. Tout ce qui va être, par exemple, complément alimentaire, etc., ça
ouais.
ne m'intéresse pas. Donc,
ouais,
je
si
refuse.
C'est quelque chose qui te plaît
tout
pas.
Tout ce qui va être l'alcool, je n'ai pas envie de mettre en avant
ouais.
l'alcool non plus. Donc voilà. Après, c'est des produits que je choisis, que je sélectionne. Et après, on en discute avec la marque.
Ouais, ok, vas-y, reprends, on a fait une grosse aparté.
Du coup, le tarif, j'envoie le devis, du coup, ils ouais. le renvoient signé. Une fois que le devis est signé, je réfléchis à la recette que j'ai envie de mettre en avant. Donc, je regarde un petit peu ce qu'il y a sur Internet, je me dis quel aliment pourrait aller avec celui-ci, tout ce qui est association d'aliments, j'adore faire
ouais,
ça.
Oui, il y a vraiment une réflexion derrière
une
recette.
Ah oui, tout à fait. Tu te dis pas, bon, bah là, il m'envoie des crevettes, tac, je le mets sur le riz.
Oui, bien sûr.
Non, pas du tout. Il faut des recettes un peu recherchées quand même,
oui.
originales et qui changent. Ils ne veulent pas des recettes qu'ils ont déjà vues
bah
partout.
Oui, c'est sûr.
Du vu et du revu, ils n'en veulent pas. Donc du coup, voilà, il y a toute une réflexion autour des recettes. On peut en parler aussi avec la marque, voir si la recette en question leur plaît ou non.
Oui, il y a un échange
d'ajuster.
Qui se fait avant.
Oui, tout à fait. Alors, certains créateurs de contenu font même un mood board, donc une planche d'inspiration, en fait.
D'accord.
Où ils reprennent des photos qu'ils ont trouvées sur les réseaux ou sur Pinterest
pour illustrer
pour montrer
un
petit peu ce qu'ils peuvent proposer à la marque.
Ok.
Alors moi, ça ne m'arrive pas toujours de faire ça. J'en parle avec la marque, ils sont assez réceptifs
ouais.
et ouverts, donc ils me disent on te laisse carte blanche, fais ce qui te plaît,
okay.
Donc voilà, ou ils valident tout simplement la recette. Donc ils m'envoient le produit, ou certains m'envoient un bon d'achat pour pouvoir aller acheter le produit parce que c'est
oui,
pas
d'accord.
des produits frais et c'est vrai que la chaîne a du
Oui bien
et...
sûr, si c'est envoyé par colis
voilà,
que la poste
exactement.
Le perd.
Voilà, donc ça dépend, la plupart du temps ils m'envoient quand même le produit. Ensuite moi je m'occupe d'acheter les autres ingrédients nécessaires justement à la recette.
D'accord.
Donc, je réalise la recette, création, dosage, voilà. Donc, je note bien tout en réalisant ma recette. Je note les dosages, j'ai mis tant de grammes, etc. Parce que sinon, j'oublie.
Bah, c'est ce que j'allais te demander. Je fais encore une pause. Mais du coup, moi, quand je cuisine, je suis une recette. Hein. Clairement, si je ne suis pas de recette, je suis perdue. Mais du coup, au niveau des dosages, comment tu... Enfin,
moi, je fais beaucoup d'impro pour le coup.
C'est vrai. Et ça marche
coup, ouais, mais du coup...
Ah,
des
mais
fois,
c'est pas normal.
Dis...
Moi, ça marche pas si j'improvise.
Ma maman me dit pareil.
D'accord.
Mais c'est vrai que des fois, je fais la recette et je fais « mince, j'ai pas calculé là ». Et du coup, je suis obligée de refaire une assiette à côté pour savoir combien de grammes j'avais mis.
Oui, bah d'autant plus toi, si tu la partages après.
Exactement. Ta
recette, c'est vrai, c'est parce que bon, nous, on sait pas. Bon, bah, la prochaine fois, on y va de nouveau à tâtons. Mais toi, il faut que tu la partages.
Au début, dans mes toutes premières recettes, je mettais, par exemple, si je faisais un wok, je mettais nouilles, crevettes. Et les gens me disaient « mais t'as mis combien de quantité ?»
Bah oui,
et là, je me disais « mince, j'ai pas noté combien j'avais mis ». Donc aujourd'hui, je fais attention de bien prendre ma balance, de tout peser.
Oui.
Et du coup, voilà, je crée la recette, le dosage, etc. J'adore improviser en me disant, bon, allez, là, on va mettre ça en plus. On va rajouter des petites herbes, on va rajouter...
Ouais, tu fais des tests.
Ah oui, exactement.
C'est super.
Il y a eu des loupés, hein.
Oui, bah, bien sûr, j'imagine, comme tout le monde, hein, c'est normal.
Il y a eu des loupés, mais après, une fois que tu travailles ta recette...
Tu peux pas tout réussir du premier coup, puis c'est en testant comme ça que tu aboutis à la bonne recette qui
voilà,
va donner envie.
Voilà, tout à fait.
Ok. Donc du coup, à partir du moment où cette recette, elle est finalisée, tu sais exactement les ingrédients, dans quelle quantité?
Et là, c'est le stylisme culinaire, donc la photo.
Ok.
Donc pour le shooting, tout ce qui est stylisme culinaire, tu choisis ta vaisselle,
ouais.
Le fond photo... Tout ce qui va être les torchons, par exemple, les
couverts. Oui, c'est ça, on ne prend pas la vieille assiette ébréchée, ça ne fera pas joli sur la photo.
Non, pas du tout. Quand tu vas dans un magasin, tu achètes une assiette, parce qu'il faut une assiette pour ton shooting,
ouais,
il ne faut pas six. Donc
tu dois avoir un sacré stock d'assiettes en un exemplaire différente, c'est ça.
Encore ce week-end, j'allais à la brocante et c'est vendu par lot. Et je lui dis, excusez-moi, est-ce que je pourrais acheter une assiette? Elle me dit, attendez, elle vérifie, elle me dit, ah oui, j'en ai sept, vous pouvez en prendre une.
Ah oui, d'accord.
Je lui ai expliqué que j'étais photographe culinaire, elle m'a dit, ah, mais c'est super. Super, il n'y a pas de souci, prenez cette assiette.
Super, oui, c'est pas bête, en plus c'est des belles assiettes en brocante.
Ouais. Okay. Donc voilà, donc on choisit tout ce qui va être le stylisme culinaire pour mettre en valeur justement le plat qu'on a
bien
réalisé.
Sûr, ouais.
Donc voilà, le shooting photo, on fait nos photos. Et ensuite, ou ça peut être aussi des tournages vidéo, ça je te l'ai pas dit.
Ah oui, d'accord.
Alors,
ouais, c'est
du
contenu photo ou vidéo.
Ouais, okay. De plus en plus sur Instagram, les
reels qui prennent de l'ampleur peut-être. Ouais.
Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Donc de plus en plus, les marques demandent des vidéos.
D'accord.
Donc je me lance là depuis peu dans la vidéo. C'est tout nouveau pour moi parce que j'en ai posté 3-4 là sur mon compte.
Ouais.
Très
pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas ou qui ne seraient pas familiers des reels, c'est des courtes vidéos. Je ne sais plus si c'est 60 secondes.
C'est passé à 1 minute 30.
C'est passé à 1 minute 30. Ouais. D'une minute 30 qui sont montrées finalement pas que à tes abonnés en fait. Je crois. Hein. En fait, elles sont. En tout cas, moi, pour mon compte, c'est le cas. Elles ne sont pas forcément montrées qu'à mes abonnés. Ce qui, à l'inverse des publications. Souvent, et du coup il y a une visibilité qui est monstrueuse par rapport à certains posts en fait.
C'est beaucoup plus vu qu'un post.
Et du coup ça a une ampleur phénoménale, tout le monde le fait et j'imagine du coup les marques le demandent aussi, mais c'est pas le même travail des noms de faire une photo qu'une vidéo.
Ah non, pas du tout, c'est beaucoup plus long
bien
de
sûr,
faire une
vidéo
parce qu'après t'as tout le montage derrière.
Bah ouais, c'est ça.
Et rien que le temps de tournage, filmer une vidéo demande beaucoup plus de temps que shooter avec un appareil photo. Donc,
Ok, bah, on y reviendra, tu nous raconteras tout à l'heure.
C'est plus compliqué.
Donc du coup tu fais ta photo ou dans certains cas ta vidéo.
Dans la vidéo, voilà. Ensuite, tu as tout le côté rangement, vaisselle.
Ah, mais c'est bien de le dire, hein, parce qu'il ne s'agit pas de cuisiner, il faut faire la vaisselle, il faut ranger.
Tout à fait, ça fait partie du taf.
Hein. Bah non, mais oui.
Donc voilà, après on s'habitue, ça va beaucoup plus vite, je sais où
bien
ranger
sûr.
Les choses. Donc,
oui.
Donc voilà, ensuite il y a la partie retouche photo ou montage vidéo.
D'accord.
Donc la retouche photo, moi je le fais sur Lightroom.
Okay.
C'est une application qu'on peut tous utiliser sur nos portables.
Sur les téléphones, oui.
Qui est très intuitive et qui est très simple d'utilisation.
D'accord.
Et ensuite, j'écris du coup la recette.
D'accord.
Je fais la rédaction de la
recette. De ton poste, en fait.
Exactement. Okay. Que j'envoie également à la marque avec les photos.
D'accord. Systématiquement, les marques te demandent d'avoir un droit de regard sur la recette et la photo que tu vas produire.
Voilà. Okay. Et comme ça, eux peuvent poster du coup sur leurs réseaux sociaux ou leur site internet la recette accompagnée de la photo.
D'accord. Ok. Très bien.
Voilà. Et ensuite, moi, je poste sur Instagram ou je programme une date avec la marque. Certaines marques veulent poster à une certaine date.
Bien sûr, en fonction peut-être de la sortie du produit ou de
voilà,
certaines deadlines.
Exactement. Ils ont d'autres créations de contenu à poster avant. Donc voilà, on se met d'accord sur une date. Et ensuite, j'envoie la facture, je reçois la rémunération et le partenariat est fini.
Donc comme quoi derrière une, entre guillemets, simple photo ou simple vidéo sur Instagram, alors là on parle nous d'Instagram mais ça peut être valable sur d'autres réseaux sociaux, derrière il y a tout ça. Donc on comprend mieux pourquoi aujourd'hui les créateurs de contenu sont des personnes qui font ce métier, qui sont rémunérés.
Bon. Oui, ça demande du temps. Hein. Rien qu'une recette, ça peut aller jusqu'à 7-8 heures de travail.
Bien sûr.
Le double pour la vidéo. Pour la vidéo, justement.
Ok. Bon, c'est super intéressant d'avoir un peu ce déroulé. J'imagine qu'après, en fonction des projets, des marques, il y a des choses qui peuvent un peu bouger, mais globalement, ça reste ça, le déroulé, la ligne directive. Ok. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Pour faire de la création de contenu, et notamment, alors, dans plein de domaines, mais notamment, toi, dans ton domaine de la food, il faut savoir cuisiner, parce qu'effectivement, il faut faire des recettes qui sont bonnes. Si tu fais des recettes et qu'au bout du compte, elles sont belles, mais pas bonnes, c'est pas terrible. Et il faut aussi qu'elles soient belles, donc il faut savoir prendre des photos, faire les recettes, il faut savoir gérer les réseaux sociaux, il faut avoir un petit peu... comment dire, ce mindset entrepreneur, parce que tu es à ton compte. Exactement. Donc, tu as toute cette partie aussi compta, rangement, tout ça, tu vois, ouais. moins intéressant. Donc, est-ce que, de base, tu savais déjà faire tout ça, pardon? Alors, les recettes, tu nous avais dit que tu cuisinais pas forcément, mmh. mais la photo, gérer les réseaux sociaux, ça s'apprend pas. Enfin, ça s'apprend. Si, justement, ça s'apprend de faire de belles photos.
Oui, oui, bah, on est un vrai couteau suisse hein. En tant que créateur de contenu food, pour le coup. Autant les créateurs de contenu dans d'autres domaines, ça peut être beaucoup plus simple.
Oui.
Tout ce qui va être la mode, où on peut montrer le produit sans pour autant devoir réaliser quelque chose derrière.
Bien sûr, ouais.
Donc c'est vrai qu'en tant que créateur de contenu food, il faut savoir cuisiner, prendre en photo, etc. Tout ce que tu disais justement, ça s'apprend.
Oui.
Tout à fait. Moi, tout ce qui est photographie, j'avais suivi des cours aux États-Unis justement pendant mon année de jeune fille au pair.
D'accord, donc c'était déjà quelque chose qui te plaisait.
Ah oui, la photographie, oui, mais pas du tout culinaire, c'était plus la photo de voyage.
Ouais, et il faut savoir qu'on prend pas on prend pas de la même façon un paysage qu'une assiette.
C'est totalement différent. Ouais, c'est totalement différent, que ce soit en les points de vue, les angles, tous les réglages d'appareils photo. Alors, je ne prends pas du tout en automatique, c'est en manuel.
Ouais.
Donc voilà.
Mais c'est bien de le dire parce que ça marche de temps en temps, hein, l'automatique, mais
pas tout le temps. Surtout la photo culinaire, la luminosité joue énormément.
Bah, c'est ce que j'allais dire, parce que comme tu prends des choses qui potentiellement doivent donner envie d'être mangés. Je sais plus si c'est une phrase, je sais plus qui disait ça, mais on mange d'abord avec les yeux.
Oui, tout à fait.
Je sais plus si c'est quelqu'un de connu.
Oui, ça me parle aussi.
Voilà. Mais c'est bien vrai. Donc du coup, si tu prends une photo et que les couleurs sont pas bonnes et que tes haricots, ils sont fluo, mais je sais pas, je dis ça, c'est bête.
Mais totalement.
Il faut que ce soit fidèle à la réalité, et c'est pas toujours le cas quand on sait pas s'y prendre. Ouais.
Et la luminosité va jouer énormément. Moi, je shoote en lumière naturelle, c'est la
meilleure lumière. Ouais.
Et c'est vrai qu'en hiver, c'est totalement différent de l'été.
Bah ouais.
Donc c'est très compliqué, c'est pour ça qu'il faut bien savoir gérer son appareil photo, connaître les réglages pour pouvoir régler tout ça et être au point au niveau de la lumière sur ton plat, en fait.
Ouais, donc c'est important de préciser que du coup, quand on est créateur de contenu culinaire, alors il y a plein de comptes, mais en tout cas pour ton compte ou les photos, moi j'adore les regarder, juste les regarder. Du coup, effectivement, ça te prend toutes les étapes que tu nous as données, et puis ça nécessite d'avoir des connaissances. Oui. Soit on les a déjà, soit il faut se former si on veut produire du contenu de qualité qui donne envie vraiment, quoi.
C'est ça, exactement. Après, sur internet, dans des livres, il existe plein de méthodes de
bien sûr.
Apprendre.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment le point positif. C'est que tu as pas mal de tutos sur internet qui t'expliquent comment faire. Donc il y a moyen de se former, d'être autodidacte
tout seul. Ouais.
Donc ouais, côté photographie, donc j'avais appris déjà pas mal aux États-Unis. Tout ce qui est cuisine, du coup, ça se fait sur le terrain, envie de dire. Ouais. Pour créer du coup mon auto-entreprise, alors ça, j'y connaissais rien du tout.
Bah ouais.
et je me suis lancée en même temps que ma sœur jumelle, justement, qui, elle, avait créé son auto-entreprise pour faire de la photo et du drone.
Ok, d'accord, vous avez ça qui vous réunit.
Ah oui, totalement, alors qu'on n'était pas du tout du même milieu de travail, j'ai envie de dire.
D'accord.
C'était totalement différent, et au final, on se retrouve à faire maintenant la même activité, mais dans des secteurs différents. Donc elle, c'est le voyage, moi, la food.
C'est plutôt voyage.
Et du coup, on a décidé de monter notre auto-entreprise en même temps, en fait.
Oui.
Et du coup, on s'est renseigné sur comment faire. Donc là, on a été sur Internet, on a lu pas mal d'articles, on voulait pas faire de bêtises.
Oui, oui, c'est des démarches.
Et être deux, déjà, ça aide.
Ça rassure, le faire en même temps,
totalement.
Tu m'étonnes.
Donc voilà, on s'est lancé en même temps, et c'est très simple. Il faut savoir que pour créer son auto-entreprise, c'est le statut le plus simple à créer.
Oui.
Il suffit juste d'aller sur l'URSSAF et de remplir un dossier. Et au final, on reçoit, au bout de quelques semaines, l'extrait INSEE qui te donne ton numéro de SIRET. Et voilà, tu as créé ton auto-entreprise.
Ouais, okay.
Et pour tout ce qui est déclaration, c'est pas comme une société normale, c'est beaucoup plus simple. Tu as juste à déclarer ton chiffre d'affaires chaque mois.
Oui.
Et le tour est joué, en fait.
Okay.
Tu payes tes commissions si tu as un chiffre d'affaires. Si tu n'en as pas, tu n'as rien à payer. Donc ça, c'est le point positif aussi avec l'auto-entreprise. C'est que tu n'as jamais de commission à payer si tu n'as pas fait de chiffre d'affaires.
D'accord, ok. Et du coup, après, pour la partie réseaux sociaux, gérer les réseaux, programmer, j'imagine que de par ta génération, c'était déjà quelque chose avec
lequel t'étais à l'aise. La technologie, on est né avec, mais pas loin.
Ouais.
Donc oui, c'est beaucoup plus à l'aise. Quand j'entends ma mère qui râle derrière, c'est parce qu'elle n'y arrive pas.
Mais bon, j'espère que ta mère ne sera pas vexée en écoutant le podcast.
Non, elle rigolera. Elle gère plus Facebook, tu vois.
D'accord, ok. Bon, je pense le message subliminal, Facebook, c'est pour les plus âgés,
j'avoue,
c'est ça.
Je l'utilise plus.
Moi non plus, c'est vrai.
Instagram. Mais oui, c'est pas inné, mais pas loin, en fait. C'est tellement simple à gérer, Instagram. Après, c'est vrai que c'est du travail. Il faut savoir être actif au quotidien. Oui.
Mais puis encore une fois, ça prend du temps, quoi.
Ça prend du temps. Bah, pour le coup, c'est devenu un travail. Donc, poster au quotidien, animer tes réseaux sociaux.
T'as une bonne raison d'être avec ton téléphone souvent, toi.
Quand on me demande ça va, t'es pas trop sur les écrans, je dis ah bah si, je travaille sur mon écran.
Je travaille. Bon, des fois, tu scrolls, comme tout le monde, mais.
Mais voilà, donc les réseaux sociaux, ça se gère assez bien, en fait. Faut être actif.
Ok, très bien. Alors, j'aimerais savoir au quotidien combien de temps ça te prend. Alors, sans forcément nous dire ça me prend tant par semaine, mais en pourcentage, enfin qu'on se rende compte vraiment sur une semaine combien de temps tu vas consacrer à tout ça, mais dans son ensemble en fait. Des échanges de mails jusqu'à la publication, à la réponse aux commentaires, on n'a pas parlé de ça, mais t'as des gens qui vont commenter, peut-être te poser des questions. Donc, combien de temps à peu près t'estimes ton travail ? Est-ce que tu saurais nous dire ?
Oh, c'est compliqué. Ouais. C'est vrai que tu as la partie travail perso, entre guillemets, où tu as justement répondre à tous les commentaires, être actif en story.
Ouais.
Enfin voilà, tu as pas mal de choses, même poster mes recettes perso, entre guillemets. Parce
oui, c'est ça,
voilà,
au-delà de
pas
la création.
La création de contenu, pas du tout. Il y a mes recettes à moi
bien
aussi.
Sûr, ouais.
Et heureusement, j'ai envie de garder ce côté qui n'est pas que du travail.
Partage
mais vraiment,
simple,
partage
parce que,
exactement.
Ouais.
Ce qui était
l'origine.
Le fondement en fait, ouais, de mon compte. Donc voilà, donc. Ça prend pas mal de temps. Quand je regarde combien de temps je passe sur mon téléphone par jour, je suis au moins à 6 heures.
Oui, il vaut mieux pas regarder.
Voilà, c'est ça, vaut mieux pas regarder. Donc voilà, déjà ça prend du temps.
Ouais.
Après, pour tout ce qui va être création de contenu avec une marque, par exemple, si c'est une photo ou quoi, je pense que je passe 8 heures.
D'accord, ouais, c'est bien,
voilà,
déjà,
à partir
ça me donne une
du...
idée.
8 heures, sachant que je te parle pas de tous les échanges mail avant. C'est
oui,
un peu
c'est
compliqué
de totalement comptabiliser.
Ouais, exactement. Mais je te dirais 8 heures à peu près pour une photo, dans le sens où tu as quand même les échanges avec la marque,
oui,
le devis, toute la paperasse, entre guillemets.
Ouais, ouais, ouais.
Réaliser la recette, tout ce qui va être la retouche, écrire la recette, envoyer. Voilà, ça représente quand même pas mal de temps.
Okay.
Et pour une vidéo, ce serait le double.
Oui, on en parlait. Donc du coup, les vidéos, t'en fais de plus en plus, c'est ça que tu
ouais,
me disais.
Exactement. Les marques m'en demandent de plus en plus. Là, je suis en collaboration avec une nouvelle marque.
D'accord.
Donc vous allez le découvrir sous
ah,
peu.
On n'aura pas l'avant-première, mince.
Sur mon compte Instagram, mais qui m'a demandé justement 3 vidéos par mois.
D'accord, ouais.
Donc
okay.
Pas des photos, des vidéos.
Ok.
Donc voilà, c'est nouveau pour moi. Il a fallu trouver quelque chose qui me plaît, l'image qui me plaît, le... Là, j'ai trouvé. Je sais comment filmer mes recettes.
Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est une bonne... J'avais pas pensé à ça, mais tu vas avoir une façon de prendre des photos. Du coup, quand on arrive sur ton feed, on repère ton style, entre guillemets.
Chacun a son style, ouais.
Mais en vidéo, du coup, c'est la même chose. Mais c'est la même chose de manière différente parce que tu peux pas faire comme sur tes photos. Ouais, c'est vrai.
Ah oui, ça change.
T'as toute une réflexion.
Ouais, j'ai eu du mal à le trouver, justement, cette identité visuelle que je voulais avoir.
Mm.
Alors, dans ta tête, tu as une idée, mais t'arrives jamais à la refaire. C'est très compliqué.
Ouais.
En vidéo, moi, j'avais beaucoup de mal. Il faut aussi trouver les transitions. T'as des claquements de doigts, des passages.
J'adore regarder ces vidéos et moi j'aime beaucoup tout ce qui est création de contenu, faire des vidéos comme ça. J'ai pas forcément le temps, voilà, moi c'est pas mon métier, mais du coup je trouve ça, enfin c'est une adrénaline en plus de préparer une vidéo, de faire le montage après, enfin de. Et je t'ai vu il y a pas longtemps, parce que moi je te suis, du coup je t'ai vu il y a pas longtemps avec un glaçon, lâcher un glaçon et vouloir avoir l'effet. J'adore ces photos là. C'est pas pour le coup, c'est pas une vidéo, je crois.
C'était un splash.
Ah ouais, j'adore.
Splash. Alors je l'ai pas encore posté, mais elle va arriver.
C'est
bientôt,
vrai,
je pense, la semaine prochaine.
Bon, j'ai hâte de voir. Mais ouais, j'adore toutes ces choses un peu originales, quoi, créatives.
Ah, mais totalement. Dans la photo culinaire, ce que j'aime bien aussi, c'est se lancer des défis, de créer de nouvelles choses. Et il en existe tellement. T'as aussi tout ce qui va être... je connais plus le nom, mais les photos en mouvement.
Ouais.
Avec les aliments justement qui volent.
Oui, j'adore.
Je trouve ça hyper intéressant.
Ouais,
hyper
c'est super
beau.
Créatif.
Mais c'est vrai que du coup, j'aime bien me lancer des petits défis. On s'est dit avec ma sœur, tiens, on va essayer le splash. Donc, on était chez nous avec notre glaçon à lâcher.
Bon, alors à suivre dans une semaine
c'est ça, exactement.
Sur ton compte.
Donc voilà pour les vidéos. Donc je me lance depuis peu et là j'ai trouvé vraiment l'aspect que je voulais rendre en fait en vidéo. Donc oui. C'est toujours compliqué parce que voilà, il faut pas bouger un aliment, sachant que le plan suivant il y a le même aliment. Donc ouais, voilà, faut ça. Vraiment bien être cohérent dans chaque plan que tu vas filmer pour pouvoir être suivre ta bonne ligne pendant le montage en fait. Donc voilà, c'est complètement différent d'une photo. Pour le coup, tu peux bouger les aliments, trouver vraiment le rendu que tu as envie de montrer.
Oui.
Mais pour une vidéo, c'est totalement différent. Donc des fois, tu prends des risques, tu dis bon allez, j'ai fait cette transition, on croise les doigts pour que ça passe, sinon c'est foutu.
Bah oui, parce qu'après sinon faut refaire la recette en fait.
C'est exactement ça. Et ouais, bah, justement, là j'ai fait une recette, la dernière que j'ai faite il y a une semaine, un raté.
D'accord.
Pour le coup, je l'ai faite, je l'ai montée et je me suis dit j'aime pas. J'aime pas, j'aimais pas du tout. Et pour le coup, mes proches m'ont dit ouais, c'est pas terrible.
D'accord. Mais c'est bien qu'ils soient honnêtes.
Ah, mais ils sont totalement honnêtes.
Au moins,
pour le coup, mon copain, ma soeur, ma maman, tout le monde me dit ah non, là ça va pas. Et je le sais quand ils aiment pas. Donc ça, c'est bien. Au moins, je peux changer, améliorer les choses. Ouais. Donc ils ont cet œil un peu critique qui me permet d'avancer aussi.
Bah, puis j'ai envie de dire, vaut mieux, parce que qui mange les recettes quand elles ne sont pas ratées, comme tu dis?
C'est ma famille et mon copain.
Voilà, donc je pense qu'en fait, ils ont tout intérêt à être honnêtes.
Ah oui, et c'est ça qui est bien, c'est que je peux m'améliorer justement. Ils vont pas me dire pour me faire plaisir, bon, bah, c'était très bon, c'est très beau. Heureusement, j'ai envie de dire.
Oui, bien sûr.
Donc ça aide beaucoup. Donc voilà, ma recette était ratée. Enfin, j'aimais pas la manière dont j'avais filmé, en fait. C'était pas la recette. La recette, je l'ai refaite du coup exactement pareil.
Oui.
Mais c'était le rendu vidéo. Enfin, j'aimais pas.
D'accord.
Donc je l'ai re-shooté le lendemain. Je me suis couchée un petit peu énervée et au final, je me suis dit, bon, allez, je la refais quand même.
Ouais.
Et pour le coup, c'était génial. Et ma famille m'a dit, oh, bah, c'est beaucoup mieux.
Mais alors, question ultra bête, hein, peut-être. Mais si la marque t'avait envoyé un produit, du coup, tu l'as en un seul exemplaire.
C'était un très grand sachet.
Parce que du coup, tu dis, alors là, mince, je ne vais pas recontacter la marque en disant, j'ai raté, il faut m'en envoyer un.
Non, c'est des oléagineux. Donc, du coup, c'est un grand sachet. Donc, je pouvais en refaire encore 30. Hein.
D'accord, ça va.
Heureusement.
Bon, bah, c'est super intéressant, en tout cas, de t'écouter parler de tout ça, d'avoir un peu les coulisses. Moi, j'aimerais savoir comment tu continues de trouver l'inspiration, parce que je crois que ça fait 2 ans maintenant.
Oui, tout à fait. Ça fait
que tu es lancée. Comment tu trouves l'inspiration pour toujours créer de nouvelles recettes? Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu allais un peu sur les réseaux pour regarder, mais bon, malgré tout, il faut quand même avoir des idées. Donc, comment tu fais?
Bah, honnêtement, je pense que j'ai beaucoup d'idées déjà.
Ouais, t'es créative de base.
Ah, oui, je suis très créative, j'adore créer. Donc déjà, quand on me dit tel aliment ou tel aliment, il faut savoir que déjà, c'est des aliments que je n'utilise pas au quotidien la plupart du temps.
D'accord.
Donc, ça peut être tout ce qui est oléagineux. J'en utilise, mais pas au quotidien non plus.
D'accord.
Donc déjà, ça me sort un petit peu de ma zone de confort.
De ce que tu as l'habitude de cuisiner,
Après, tout ce qui va être produits asiatiques, j'en découvre des nouveaux. J'adore la cuisine asiatique.
Ouais.
Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit « Ah bah là, j'en ai un et tout ». C'est des produits que je maîtrise pas, enfin que j'ai jamais cuisiné.
D'accord, ouais, donc c'est d'autant plus intéressant.
Donc voilà, c'est vraiment des nouveaux produits et j'essaie de trouver des inspirations, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest. Et je me dis « Qu'est-ce qui pourrait aller avec ça ?» L'autre fois, j'ai fait un poulet à l'orange.
Ouais.
Bah, j'avais jamais cuisiné ça avant et au final, grande réussite.
C'était bon,
C'était super. En fait, j'avais envie de trouver une recette qui change, qui soit originale. Pour le coup, c'était pour une création de contenu, mais d'un plat.
D'accord.
Rien à voir avec un poulet ou une orange.
Oui.
Mais vraiment de créer quelque chose de nouveau qui change, qu'on ne voit pas sur les réseaux. Enfin, vraiment.
OK.
Donc voilà, où je trouve mes inspirations dans ma petite tête, sur les réseaux sociaux.
OK. Et du coup, là, tu nous parlais d'une recette de poulet à l'orange. Est-ce que tu as déjà créé une recette de A à Z? Je ne sais pas, une recette... Enfin, moi, vraiment, je n'y connais pas grand-chose en cuisine, même si je cuisine un peu. J'ai envie de faire un gâteau. Ben, moi, je prends une recette. Toi, si tu as envie, de créer un gâteau, je sais, c'est peut-être bête ma question. Est-ce que tu pars d'une base, la base d'un gâteau? Je ne sais pas, je n'ai même pas d'idée de nom
de
gâteau.
Le gâteau yaourt, c'est
ouais,
la base.
Ouais, bon, ça, c'est vraiment la base.
Gâteau qui fait
non, mais tu vois, il y a différentes sortes de gâteaux un peu nature comme ça. Est-ce que tu pars d'une base comme ça et que tu vas ajouter des choses, le cuisiner différemment? Ou est-ce que vraiment, il t'est arrivé de créer la recette en disant il faut tant de grammes de farine, tant d'œufs, enfin, je ne sais pas.
Alors, pour le côté pâtisserie, je suis beaucoup moins calée.
Ah, je suis allée sur un domaine.
Ouais. Là, j'avoue. Non, moi, je suis plus cuisine salée.
Plus salée, d'accord.
Oui. Okay. Là, le salé, je peux totalement improviser. Tu me dis, est-ce que j'ai déjà créé des recettes? Oui, bien sûr.
Ah, super. Ouais.
C'est des total impro, en fait.
Ah, j'adore.
Tout ce qui va être les woks, les salades, tout ça, j'adore créer. D'ailleurs, j'ai écrit un e-book spécial été. Donc, c'était l'année dernière, en mai 2021, que je l'ai publié. où je crée justement plein de recettes de plats et enfin d'été justement.
D'accord.
Et c'est des recettes fraîches, colorées, qui donnent envie.
D'accord.
De manger
bah tu nous
été.
Diras tout à l'heure où on peut le retrouver à la fin de l'épisode.
Ouais, exactement. Et tout ça, c'est vraiment du créer de A à Z.
Ok.
Et même des desserts aussi que j'ai mis du coup dans mon ebook. Il y a 30 recettes en tout. Je sais plus exactement, peut-être 15 et 15, hein, quelque chose comme ça.
D'accord.
De salé sucré. Mais vraiment, là, c'est des recettes créées de A à Z.
Ok, chouette. Donc, bah, c'est possible, donc
voilà.
Alors.
Après, la pâtisserie, je t'avoue que non.
C'est
il
moins
faut une base.
Ce qui te plaît.
Ouais.
Non, non,
il
mais après, chacun
une
son
base.
Truc.
Je pourrais pas te faire un gâteau comme ça à main levée.
Bon, mince. Non, mais c'est bien parce que je préfère le salé, moi. Donc voilà. Le message est passé. Ok, alors du coup, l'inspiration, elle te vient, tu nous disais, un peu des réseaux sociaux et puis surtout beaucoup de toi qui es créative de base. J'ai une autre question par rapport aux réseaux sociaux. Toi, aujourd'hui, tu as un compte Instagram. Je crois qu'on ne peut, entre guillemets, te retrouver que sur Instagram. Est-ce que c'est une volonté de ta part d'être présente que sur ce réseau social? Est-ce que tu n'aurais pas envie d'aller sur ceux qui sont un peu en vogue en ce moment, TikTok par exemple, YouTube aussi, puisque tu nous dis que tu développes un peu de la vidéo et beaucoup de recettes vidéo peuvent être en vidéo, pardon. Donc est-ce que c'est une volonté de ta part de rester sur Insta? Est-ce que tu as des projets d'aller ailleurs? Enfin, raconte-nous.
Non, je pense que c'est une volonté de ma part, en effet, de rester sur Instagram. Je me dis que déjà sur Instagram, je passe énormément de temps.
Oui.
Donc si je passe sur un autre réseau, je pense que je vais passer le double du temps et j'aurai pas le temps de tout maîtriser.
Ouais, je comprends.
C'est trop compliqué d'avoir plusieurs réseaux en même temps plutôt que d'en avoir qu'un sur lequel tu te concentres vraiment et où t'es actif. Je sais pas si j'ai vraiment envie de partir vers la vidéo. Moi, ce qui me plaît plus, c'est quand même la photo.
D'accord. Ouais.
Je fais de la vidéo parce qu'il faut s'adapter maintenant à Instagram qui demande de plus en plus de vidéos.
Oui.
Mais de base, c'est la photo qui me plaît le plus.
D'accord.
Donc,
okay.
Voilà. Après, TikTok, j'avoue, j'ai pas du tout de compte. Ça m'intéresse pas trop. Je suis pas dans... Ouais, j'ai pas suivi la vague, moi.
Bah, moi non plus. On se sent un peu vieux ou je sais pas quand on dit
je
ça.
Pense,
mais...
C'est plus de l'âge de mon petit frère, tu vois, qui est au lycée.
Ouais.
Mais du coup, ouais, j'ai pas pour projet de partir vers
d'accord.
autre chose. Même si mon oncle me dit, mais va sur YouTube, fais-nous des recettes, on te voit.
Oui.
Donc voilà, c'est différent. Mais je pense que je préfère me concentrer sur un réseau où vraiment je suis active à fond. Et,
oui, t'as raison.
Plutôt que de partir dans tous les sens et de me perdre.
Bah, c'est exactement le conseil qu'on entend. C'est vaut mieux être active et puis passer beaucoup de temps sur un seul réseau, s'y concentrer, plutôt que d'être un peu partout, mais pas vraiment
c'est exactement ça.
Concentré sur
voilà.
chacun. Ok, donc Insta. Est-ce que tu te fixes des objectifs pour le futur de cette activité de créatrice de contenu? Est-ce que tu as des perspectives de développement? Enfin voilà, comment tu vois l'avenir? Ou est-ce que tu y vas au jour le jour?
Alors moi, je vis beaucoup au jour le jour.
Ouais.
Après, c'est vrai que j'aimerais beaucoup... Donc là, c'est beaucoup de création de contenu. Donc
oui.
La création de contenu où tu postes justement sur tes réseaux parce que les marques te contactent parce que tu as une visibilité justement et qu'ils veulent que tu postes. J'aimerais bien à l'avenir essayer d'être plus photographe culinaire que créatrice de contenu.
D'accord.
Ce qui veut dire que la marque te dit, bon, bah, je vous envoie tant de produits, par exemple des yaourts.
Oui.
Et c'est à toi de leur faire les photos pour leur site internet sans pour autant aller poster sur ton,
d'accord.
ton Instagram en fait.
Okay.
C'est vraiment réaliser des photos food mais pour une marque, sans pour autant avoir le côté influence derrière.
Oui, ce qui fait que, tu m'arrêtes si je me trompe, ton métier n'est plus créatrice de contenu, mais photographe culinaire,
exactement.
Styliste culinaire.
C'est exactement
ouais, okay.
ça. Et ça, j'aimerais bien partir vers ça.
D'accord.
Et je pense qu'il faut que je me forme plus dans la photo, justement, pour trouver encore plus mon identité visuelle,
ton
je
style.
Pense.
Oui.
Et proposer aux marques, parce que pour le coup, là, si c'est des yaourts, t'as pas de recette à réaliser pour autant avec.
Oui, c'est le produit
yaourts,
en lui-même.
Oui, c'est le produit brut
oui.
avec de la déco autour. Ça peut être, par exemple, si c'est un yaourt aux fruits, la banane, tu vas mettre une banane autour,
oui.
etc. Tu vas jouer avec...
Après, c'est le produit brut, pardon, où ça peut être aussi toi qui vas prendre les photos d'un projet d'une marque. Il y aura une recette qui aura été faite et toi, tu vas, entre guillemets, juste prendre la photo sans faire la recette.
Exactement,
aussi.
Exactement, c'est
au-delà
ça.
Au-delà du produit,
voilà.
Là, on parlait d'un yaourt,
oui.
mais peut-être que le yaourt peut être mis en scène d'une façon. C'est toi qui vas réfléchir à cette mise
exactement.
En scène, mais pas toi qui vas faire la recette.
Voilà, donc tu as les deux côtés. Tu as le côté où justement
ouais.
tu peux prendre juste la recette qui est déjà réalisée, donc tu es photographe culinaire. Et tu as aussi le côté où la marque va te dire bah, on aimerait bien que vous réalisiez une recette, vous la shootez, vous nous l'envoyez.
Ouais.
Tu as les deux côtés en fait.
D'accord.
Mais moi j'aimerais bien ne plus être identifiée que Instagram aussi.
D'accord.
Et
ouais, okay.
vraiment avoir la double casquette où tu fais aussi de la photo culinaire à côté sans pour autant les poster sur tes réseaux sociaux.
Ouais, je comprends.
Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, de me développer là-dedans.
Okay.
Après, à voir ce que l'avenir me réserve.
Non, mais c'est chouette d'avoir cette idée-là. Et puis, c'est bien que tu parles de se former, parce que je pense que dans tout domaine, si tu veux exceller ou en tout cas arriver à tes objectifs, ben, t'as pas le choix que de te former. Puis, on le disait tout à l'heure, ça s'improvise pas de la photo, d'autant plus de la photo culinaire. Donc, c'est important d'aller te former pour pouvoir le faire au mieux. Très bien. Alors, du coup, tout à l'heure, tu nous parlais d'un e-book avec des recettes. Tu nous l'as un petit peu dit que tu préférais le salé. Est-ce que tu as des recettes fétiches ? C'est, si on parle d'une recette, Estelle, c'est quoi ? C'est cette recette. C'est vraiment ta recette à toi, à laquelle on pense quand on parle de toi, s'il y en a une ou pas ?
Moi, je dirais que ça va être tout ce qui est les wok et les salades.
D'accord.
Les wok, j'adore la cuisine asiatique, donc ça peut être un wok avec des nouilles chinoises,
oui.
Des crevettes, des petits légumes, une sauce. Enfin voilà, tout ce qui est wok, j'adore improviser.
Ok.
Ça peut être du tofu dedans aussi. Ça peut être, enfin vraiment, tu peux mélanger un petit peu tout ce que tu veux. Et c'est ça, je pense aussi que les gens aiment, c'est que je fais des recettes où tu peux intervertir des aliments,
d'accord.
Changer si t'aimes pas quelque chose.
Oui.
Ça reste des recettes simples, accessibles à tous.
Oui.
Donc voilà, je suis pas partie vers du gastro sophistiqué ou quoi.
Ouais, oui.
C'est vraiment simple, mais accessible à tous et des recettes qui changent. Donc voilà, après tout ce qui va être salade, moi on m'identifie beaucoup au salé sucré, pardon.
D'accord.
J'adore le salé sucré, que ce soit dans les plats chauds, poulet à l'ananas, poulet à la mangue ou quoi.
D'accord.
Et les salades, surtout en été, où tu peux rajouter les fruits rouges, les fraises, framboises, mûres.
Oui, je crois qu'en off, tu me disais que tu préférais l'été en fait pour cuisiner.
Ah oui, exactement, je préfère l'été pour cuisiner plutôt que l'hiver. C'est beaucoup plus compliqué en hiver pour moi de cuisiner qu'en été. J'adore tous les plats frais déjà plutôt que chauds.
D'accord.
Et ensuite, moi j'adore les fruits d'été plutôt que ceux d'hiver. Il y en a très peu que j'aime.
D'accord. Donc, est-ce que là tu pourrais, je te prends peut-être de court, mais ton e-book est sorti l'année dernière, tu nous disais, il est encore accessible, on dira le retrouver. Est-ce que tu peux nous citer un exemple de recette ou deux, trois exemples de recettes qu'on peut retrouver dans le e-book pour nous donner l'eau à la bouche ?
Oui, bien sûr. Donc en fait, il est divisé en quatre parties.
Oui.
Déjà en deux parties, salé et sucré, et dans chaque partie, tu en as deux autres, des sous-parties. Dans la partie du coup salade, tu vas avoir tout ce qui est salade façon César, salade chèvre, miel, fraise, justement.
Ça y est, je salive.
Donc voilà, plusieurs salades. Ensuite, tu as la partie petite faim. Par exemple, tu vas avoir des wraps, crevettes, avocat, mangue, des rouleaux de printemps. J'adore les rouleaux de printemps, tiens.
Ouais.
C'est quelque chose que je fais souvent aussi. Et que je mélange aussi salé et sucré. J'en ai fait une version sucrée qu'on peut retrouver également dans mon e-book.
D'accord.
Que avec des fruits.
Ok.
Gros coup de cœur pour cette recette.
Ah, bon, je note.
Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que ça a été une très belle découverte. Donc, le sucré rouleau de printemps, c'est validé.
Ok. Bon, et ben, hâte d'aller voir ce e-book et de le télécharger. Alors, en fin d'épisode, j'ai toujours l'habitude de poser trois petites questions à mes invités. Est-ce que tu peux nous parler d'un échec, d'une déconvenue ? Et quand je dis échec, je le rappelle à chaque épisode parce que c'est important. Un échec, c'est un apprentissage, en fait, quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu l'avais imaginé, mais qui finalement t'aura appris quand même.
Oui, alors je pense qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, mais vraiment qu'on tire une leçon du positif de tout ce qui nous arrive.
Ouais.
Alors, moi, je parlerai d'échec avec la compagnie Off. Parce que voilà, il y a eu le Covid et qu'au final, je n'ai rien appris pendant mon CDD. Donc pour moi, ça reste un échec, même si ce n'est pas un échec personnel. Mais du coup, le positif dans tout ça, c'est que j'ai créé mon compte Insta en parallèle et qu'au final, ça a vachement bien marché.
Oui.
Et maintenant, je vis de ça. Donc,
parce que ça fait sens avec l'épisode précédent avec Anne-Jennifer qui nous disait que sa mère lui disait souvent que quand elle ratait quelque chose ou que quelque chose ne se passait pas comme elle l'entendait, c'est qu'il y avait toujours du mieux qui l'attendait après. Bah là, vraiment, t'en es l'exemple clair et net. Ça n'a pas pu se passer chez la compagnie Off, malheureusement, ni à cause de la compagnie Off, ni à cause de toi. Et puis, finalement, ça a donné naissance au compte Instagram. Voilà, c'était écrit, c'était comme ça. La personne qui t'inspire le plus au quotidien, de qui t'as le plus appris, est-ce que tu saurais nous citer ?
Moi, je dirais ma famille.
D'accord.
Je parlerai déjà de ma maman, qui m'a transmis toute la fibre artistique qu'elle a.
Ah d'accord, c'est
toute
elle
la
qui
créativité.
Est aussi créative.
Ah oui, ça c'est ma maman.
Ok.
Donc toute la partie artistique, créative. Depuis petite, elle me dit « tu es mon artiste ».
D'accord.
Donc déjà petite, j'aimais bien créer plus dans les activités manuelles pour le coup.
Ok.
Ensuite, mon papa, je dirais pour tout le côté ambitieux, entrepreneur, et aussi les voyages. C'est
d'accord.
Lui qui nous a transmis la passion des voyages.
Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que ce n'était pas le sujet, mais tu voyages beaucoup, tu nous disais avec ta sœur jumelle.
Avec ma sœur jumelle, on voyage énormément.
C'est une passion venue de ton papa.
Depuis petite, on voyage avec eux, et encore aujourd'hui, on voyage toutes les deux, on fait des road trips.
Bah, je suis jalouse, hein. Vous étiez aux États-Unis il n'y a pas longtemps, je crois.
C'est ça.
Très bien.
Et du coup, la dernière personne, moi, je citerai ma sœur jumelle, justement.
D'accord.
Avec qui on a une très grande complicité, et on se soutient dans chaque projet.
Oui.
On se donne des idées, on est toujours là l'une pour l'autre. Donc voilà.
Ok, très bien. Et pour terminer, j'aimerais savoir si tu as une citation préférée, un mantra, une phrase comme ça qui t'aide soit dans les coups durs ou soit tout simplement à te donner envie.
Alors moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut profiter de la vie, vivre à fond. Mm-hmm. Donc carpe diem.
D'accord.
Ouais, vivre tu au jour le jour.
Au jour le jour.
Et c'est exactement ça. Et réaliser ses rêves, vivre les projets qu'on a envie de réaliser. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est de profiter de la vie et d'aller vraiment vivre ce qu'on a envie de vivre à fond.
Ok, très bien. Bah, voilà. Écoute, merci beaucoup Estelle pour ta générosité durant ce podcast. Avant qu'on se quitte définitivement vraiment pour cet épisode, j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver. Tu nous as parlé d'Instagram, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton compte et précisément comment ça s'écrit peut-être pour que les gens puissent te retrouver. Tu nous parlais du e-book, dis-nous un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il est gratuit, est-ce qu'il est payant ou est-ce qu'on peut le télécharger?
Alors, mon compte, donc, c'est Frenchie and Foodie, FrenchieAndFoodie. AndFoody.
Bon, super. Non, mais c'est bien parce que
parce
fois, on tombe sur
des comptes.
Oui, parce
que c'est en anglais et beaucoup me disent « Mais c'est un Y ou des IE ?»
Quoi qu'il en soit, je mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode, mais je préférais que tu nous le dises.
Donc voilà, sur Instagram. Concernant mon e-book, du coup, il est au prix de 8 euros.
D'accord.
Et du coup, dans ma bio Instagram, il y a le lien, justement, pour le retrouver. Il est en vente sur le site BeAweb. Donc, c'est les recettes de French and Foodie. Spécialité.
D'accord. Donc, en fait, on va sur ton compte Instagram, on va dans le lien qui est noté dans la bio et on clique et après, ça nous amène pour pouvoir
sur
le télécharger et faire nos super recettes, dont la recette chèvre, miel, je ne sais
c'est
plus,
ça.
Figue, qui donne super envie. Et mais en fait, ça devait être la dernière question, mais là, il y en a une qui me vient quand tu dis Frenchie and Foodie. Pourquoi Frenchie and Foodie? Je ne l'ai pas posé cette question.
Tout simplement parce que c'était française et gourmande.
Voilà, allez, hop,
et voilà.
Et bien, écoute, merci Estelle pour cet épisode et puis je te dis à très bientôt. À bientôt Estelle. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Sachez que ces avis sont très importants pour moi et pour le podcast. Et puis pour suivre comme elle, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook @comeelle.lepodcast. Merci de votre soutien et puis je vous dis à dans 15 jours.